Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 14 mars, il est 8h30, a-t-il vu la neige ce week-end? Je sais pas, tout ce que j'espère c'est qu'il voit bien les potards ce matin à la technique. Corto, salut.
Ah bon, il a neigé, non, qui eut cru.
Je me doutais que t'allais me la faire. Au programme de cette matinale, nous sommes, et c'est un plaisir, avec Laurine, bonjour.
Salut.
Et Samy, bonjour.
Salut Ben.
Merci d'être là tous les deux, surtout à toi Laurine, la tête complètement dans les nuages, c'est pas... merci beaucoup. Vous avez tous les deux repris du service en Lozère, vous qui étiez à la base de ce petit, mais alors tout petit projet, comment ça s'appelait déjà, Embrouille, ah non pardon, Vadrouille, l'année dernière, et eh bien cette fois c'est avec le lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher que vous travaillez avec un tout nouveau projet, on en parle avec vous dans un instant. Il n'y a plus de logique, que voulez-vous, mais y a-t-il une logique dans l'histoire? Monsieur Couder, bonjour.
Il y a toujours une logique dans l'histoire, bonjour.
J'imagine. Raphaël, histoire brève, de quoi ça cause aujourd'hui?
Nous allons parler de Ernst Jünger et Maurice Genevoix.
Ouais, que du bonheur, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire, à tes souhaits. En dernière partie d'émission, dimanche, malgré la neige tombée en abondance, je suis allé à Méhérues pour voir le spectacle Tomber en amour, c'était vraiment bien. Des comédiens généreux, une histoire sympa, j'en ai ramené un petit reportage, ce sera en dernière partie d'émission. Il y aura de la musique, comme d'hab aujourd'hui, du Thomas Pitiot et du Batlick, et devinez quoi, j'ai quand même écrit un édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Monsieur Couder, vous le savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et comme vous êtes très loin, mais alors très loin d'en être un, voilà que dimanche soir, alors que vous m'aviez dit que plus jamais vous ne remettriez les pieds dans cette radio, vous décidâtes de m'envoyer un message à peu près 22h48 pour m'annoncer que vous aviez écrit deux phrases pour votre chronique et que finalement, vous veniez ce matin, vous voyez que vous êtes loin, mais alors très loin d'être un imbécile. Blague à part, sachez que vous serez toujours le bienvenu sur cette antenne. Et puisqu'on parle d'imbéciles, certaines personnes, même si elles changent d'avis, viennent faire exception et restent malgré tout des imbéciles. Nous sommes le 26 décembre 2015 à 18h50. Le Parisien balance un article de malade. Les propos rapportés de l'ancien secrétaire général de Reporters sans frontières. On se dit que ça va être un message de paix, d'ouverture et de fraternité, alors que les attentats de novembre venaient de faire des ravages. Des musulmans proposent pour Noël de surveiller et de protéger les églises. Eh bien, le petit Roquet sort les crocs et il traite les musulmans de pyromanes. Il dit qu'en fait, ça, en faisant ça, ils mettent le feu aux poudres, etc. Ah oui, cet homme est maire de Béziers aussi. Un peu en amont, cette même année, il avait également affirmé vouloir refuser la scolarisation des enfants syriens. Le même en octobre 2017 disait aussi « Être français, c'est être européen, blanc et catholique, bien sûr ». Mais voilà que le jeudi 10 mars dernier, un éclair de lucidité lui a parcouru le cerveau. Le maire de Béziers, qui a donc tenu ses propos rétropédales en pleine guerre en Ukraine, je cite « Il n'y a pas deux sortes de victimes, des Européens chrétiens qu'il faudrait défendre et des gens pas européens qui seraient au Moyen-Orient et musulmans qu'on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses au moment des combats en Syrie, en Irak, et l'arrivée des migrants chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait parce que ce n'était pas bien, parce que moralement, c'était pas bien. » Voilà ce qu'il vient de déclarer jeudi dernier. Bah alors, bébert, qu'est-ce qui t'arrive? Une petite crise de conscientosité aiguë? T'as levé les yeux de ton nombril? Bon alors, rassurez-vous. On va se rassurer en se disant que c'est juste totalement à des fins politiques. En effet, il est le soutien de la candidate d'extrême droite. Et dans la foulée de ces propos-là, hein, cette faute, il critique violemment l'autre candidat. Vous voyez bien de qui je veux parler. En disant de ce candidat que son discours est violent, sans une once d'humanité, etc. Ainsi, vous pensiez sincèrement que Robert Ménard avait changé d'avis? Non. Il ne fait que jouer sur la corde sensible et vient faire de la scie musicale sur les plateaux pour simplement faire ce que l'on appelle de la dédiabolisation. Détrompez-vous, la reconnaissance de sa faute, comme il le dit, n'est ni sincère ni honnête. Elle ne sert, encore une fois, que des intérêts politiques. Robert Ménard est et restera un fasciste et un raciste, ou plus simplement un imbécile. On se retrouve dans un instant, on écoute d'abord Thomas Pitiot et Batlick de l'album La place de l'autre, quelques pas en arrière, ouais ça fait pas de mal des fois.
Mmh.
fais donc quelques pas en arrière pour prendre du recul avant que ça ne s'accélère, pose un point virgule. Prends le temps de tempérer ton tempérament, sont les conseils avisés que je répète souvent à mon estropié d'alter ego, figure romantique au fond de mon cerveau, disciple du présent, affranchi par le temps. Et quelque part entre l'horizon et la lumière glauque d'un tube de néon, il traîne sa jambe de bois sans savoir où il va. J'ai le souvenir de nos voyages côte à côte, quand les reflets de nos visages se juxtaposaient sans faute. Mais 20 combats et 17 défaites ont fini par faire rentrer dans ma tête des objets encombrants, réduisant son logement. Il disait, le fait est que je suis fou, apaisé par la colère et comblé par le dégoût. Et je répondais, le fait est que je suis fier d'être pire que j'en ai l'air et de me passer de nous. Aujourd'hui son sac est toujours rempli, un coup il est là, l'autre il est parti, et se sent m'avertir qu'il emporte avec lui le goût du vide et de l'absolu. Dans le fond de mon cerveau, il ne reste plus que le manque de son emprise et l'envie qu'on me dise, fais donc quelques pas en arrière pour prendre du recul avant que ça ne s'accélère, pose un point virgule.
Des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, des personnes vraiment magnifiques et musicalement ça, on voit Thomas Pithiaud et Batlick de l'album La Place de l'Autre, quelques pas en arrière. On réécoutera deux morceaux tout au long de cette matinale. De retour en plateau avec Samy et Laurine du collectif Lundi Soir. Il y a quelques mois se finissait un projet Vadrouille, une balade sur le Mont Lozère avec sept petites histoires sonores le long du parcours. Alors la première question est assez simple, hein. Quels ont été les échos, les retombées, bref, les conséquences de ce projet pour vous? Et dis donc, il y a eu un article dans Télérama aussi.
Oui, ouais, ouais, on a eu un bel article dans Télérama, et puis je dirais que les retombées, elles ont été hyper positives. On a eu des très beaux retours sur le projet, qui continue, enfin hein, à partir de mai 2022, on peut l'écouter à nouveau sur les chemins de randonnée. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas été faire vadrouille, il y aura de nouveau l'occasion de pouvoir aller vadrouiller sur les chemins.
Et l'idée, c'est de faire un événement, on n'a pas encore quelle est la date, mais avec le parc et les différents partenaires, relancer la saison 2 de Vadrouille, avec, je pense que ce sera début juin, voilà, une sorte de fête ou de moment pour dire aux gens que c'est reparti, quoi.
La promo, quoi.
Ah, c'est un peu comme ça qu'on appelle ça,
ouais. Mais vous avez bien raison. Peut-être la question qui fâche, c'est l'application.
Eh ben l'application, figure-toi qu'elle marche.
Ah, ben voilà, donc ça fâche pas du tout, ça fait du bien lundi matin, ouais. C'est pas mal.
Ouais, ouais. On se rappelle que t'avais gentiment, durant la restitution, demandé aux développeurs web pourquoi cette application avait pris un peu de retard. On te remercie d'avoir fait pour nous d'ailleurs, mais ouais, non, ça marche.
C'est très bien. En tout cas, on en reparlera évidemment sur cette antenne. Et vous remettez le couvert, c'est pas faute d'avoir essayé de nous débarrasser de vous, hein. Mais il paraît qu'il y a encore de l'argent pour la culture et vous avez répondu à un appel à projet. Alors avant de rentrer dans les détails, c'était quand et finalement c'était quoi l'appel à projet?
Du coup, quand c'était l'an dernier, ouais, pile à la même période. Et c'est un projet de la DRAC et de la région qui s'appelle Occit Avenir.
Et ils sont forts.
Spécifique, ouais, ouh, des beaux jeux de mots, qui est spécifique au lycée agricole, il me semble. Et l'idée, donc, ils invitent un ou plusieurs artistes en résidence dans un lycée agricole. Alors pas forcément pour faire de la création sonore. Pendant plusieurs semaines, entre 4 et 8, quelque chose comme ça, 4 et 8 semaines, et l'idée c'est de l'inviter à venir à la fois faire des ateliers avec certaines classes du lycée, et en même temps de pouvoir avoir un temps consacré à la création d'un projet personnel.
Voilà, donc parti pour travailler. Tu voulais ajouter?
Ouais, non, juste dire que c'est, en fait, si on fait cette résidence, c'est grâce à Anna, pour rendre un peu à César ce qui lui appartient.
À Anna, tout simplement.
Anna. c'est elle qui nous a, parce qu'elle travaille au lycée agricole de Saint-Chély, et qui nous a mis en contact avec le prof avec qui on travaille, dont on parlera peut-être un peu après, Charlie. Voilà.
Anna, qu'on salue évidemment, qui a bossé sur cette antenne. Exactement. Et dont on entend encore les jingles de temps en temps. Donc, tu l'as abordé, hein, Charlie, on va en parler, c'est vrai. Vous voilà donc parti pour le lycée de Saint-Chély-d'Apcher. Concrètement, donc tu l'as dit par rapport à Anna, mais concrètement, c'était quoi et ça va être quoi l'idée de ce projet pour vous ?
L'idée de ce projet, en fait, c'est une résidence qui est vraiment en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps de transmission avec les élèves. Donc, en gros, le temps est partagé en un tiers, deux tiers. Donc, un tiers de transmission. Donc, on fait des ateliers avec deux classes. On a une classe de BTS AXE, donc qui vont être des fils et filles d'agriculteurs et d'agricultrices, et une classe de BTS GPN, gestion protection de la nature. Donc, il y a ce volet atelier. Et l'autre côté, en fait, il y a un volet création et ce temps de résidence nous permet de commencer d'amorcer un projet, en tout cas des repérages pour quelque chose qui sera qu'on espère développer après.
L'idée, c'est de faire des portraits sonores de jeunes agriculteurs et agricultrices. Et en fait, finalement, c'est un projet qui a été un peu amorcé avec Vadrouille, puisque une des créations, c'était autour d'une éleveuse qu'on avait suivie. Et on avait envie de continuer à travailler autour de cette thématique-là et plutôt, donc, Isabelle, pour celles et ceux qui se souviennent ou qui ont écouté Vadrouille, elle, ça faisait des années qu'elle était installée et elle avait personne pour reprendre son exploitation. Et là, on a voulu aller voir de l'autre côté. On s'est interrogé sur comment, quand t'as 20 ans, t'as envie de reprendre ce métier-là aujourd'hui.
Donc là, l'idée, c'est de les prendre pendant les études et d'aller jusqu'au moment de l'installation.
Exactement, ouais. Exactement.
Idéalement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On aimerait bien être sur un temps long. Là, ils sont en première année de BTS. C'est pas forcément des gens dont les parents sont agriculteurs, mais dans la famille. Et ils veulent reprendre l'exploitation familiale. Et on aimerait bien, donc là, comme disait Samy, c'est des repérages pour un projet sur du plus long terme. On aimerait bien les suivre l'an prochain encore, jusqu'au moment où vraiment ils s'installent.
C'est ça, parce que si j'ai bien compris, le projet, là, c'est 4 à 8 semaines. Mais là, on parle de 2, voire 3, voire 4 ans.
Oui, oui, tout à fait. L'idée, ce serait de les suivre, pas pendant 3 ans complets, mais de passer les voir régulièrement pour interroger ça, en fait. Et très rapidement, on s'est dit ça. On s'est dit que ce serait intéressant d'être là sur un temps très long.
Ah, justement, si vous les suivez, et la question peut peut-être fâcher, je ne sais pas si certaines agriculteurs, agricultrices que vous allez choisir vont se plonger dans l'intensif. Est-ce que vous avez des limites ou est-ce que vous vous dites finalement autant voir tous les panels de tout ce qui peut se faire en agriculture, de bien comme de mal ?
Je pense que nous, on n'a pas de limites qui nous intéressent plus que finalement la manière dont les futurs agris vont travailler, c'est qu'est-ce qu'ils font de leur héritage, si tu veux, et comment ils l'adaptent ou comment ils continuent ou comment ils changent, ils détournent un peu ce qui avait été fait par leur famille ou dans les exploitations qui reprennent. Donc en fait, l'idée, c'est évidemment pas d'apporter, nous, un jugement sur ce qui se fait, mais vraiment voir comment ils continuent quelque chose qui avait été amorcé.
Et ça, c'est intéressant aussi, ce côté de transmission donc des parents, mais on avait envie de le confronter à ce qu'ils apprennent à l'école aussi. Et donc, il y en a certains et certaines qui sont dans des exploitations plutôt en conventionnel. Et justement, tout l'apprentissage, c'est aussi de se poser la question de savoir quel choix tu fais et pourquoi tu le fais.
Vous avez déjà présélectionné les étudiants que vous allez suivre ?
On a une petite idée, ouais, de certaines qui nous semblent peut-être plus, enfin en fait c'est peut-être eux en fait qui nous ont qui nous ont choisi plus que nous, parce qu'en fait il y en a certains et certaines qui ne sont pas
sensibles.
Voilà, oui, sensibles au fait qu'on soit là avec eux tout le temps. Et d'autres qui adhèrent beaucoup plus à la démarche. Donc, je pense que ça va se faire aussi plutôt de ce côté-là. Enfin,
vous l'avez abordé tout à l'heure. Charlie, donc lui, il est prof en BTS, c'est bien ça ?
Ouais.
Et en plus de ça, il fait partie d'un collectif qui s'appelle le Préau et qui font des écoutes radiophoniques, c'est bien ça ?
Oui, il a monté un lieu à Saint-Chély, au-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ou le lieu du préau.
Bref. Au-dessus de Saint-Chély.
Ouais, au-dessus de Saint-Chély. Et oui, c'est, ouais.
Le préau.
Ouais, le préau. Ouais. Et ça a été lancé, je crois, il y a 6 mois maintenant. Et voilà, l'idée, c'est un lieu culturel, notamment dédié à l'écoute. mais je crois qu'ils auront un programme un peu plus large aussi. Lui, il vient des arts bruts, donc il a une artothèque dans son lieu.
Oui, c'est vraiment un super lieu. Enfin, j'ai l'impression qu'à Saint-Chély, il y a une dynamique aussi qui... Alors, peut-être qu'elle était là déjà avant, mais c'est vrai que nous, on a été agréablement surpris de voir qu'il y avait plein de nouvelles initiatives qui se créent et ce lieu en fait partie.
Ça bouge le Nord.
Tu mets à qui le dis-tu ? Oui, et nous, on les avait rencontrés à la fête de la conf en octobre. On s'est dit qu'on allait bosser ensemble et je pense que ça va arriver tout doucement, même plus vite qu'on ne le croit. On est déjà presque au printemps. Quelle est la différence de bosser sur un projet comme Vadrouille et sur ce nouveau projet ? A-t-il un nom d'ailleurs ?
Non, il n'a pas de nom encore. Non, je pense que la vraie différence, c'est que Vadrouille, dans notre démarche documentaire, on est allé chercher des personnages, des personnes qui sont devenues personnages. Et là, si tu veux, ça a été un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est des personnages qu'on a trouvés, qui nous ont été quelque part imposés, à qui on a imposé notre présence. Et en fait, ça change énormément de choses, si tu veux, dans le rapport qu'on a avec ces personnes.
Alors justement, quelle forme vous allez donner à votre travail ? Je savais déjà, vous parliez de documentaire pour Vadrouille. Est-ce que là, vous allez faire un truc perché, un truc terre à terre, un truc... voire même les deux, en fait.
Je pense qu'on ne se met pas de limite pour l'instant. C'est trop tôt pour dire quelle forme ça prendra. Le cœur de notre travail, c'est le documentaire. Donc ça, c'est sûr que ce sera du documentaire sonore. Mais ça, c'est une liberté qu'on a aussi avec le fait d'être en résidence dans des lieux comme ça et avec ces dispositifs. C'est qu'on n'a pas de contraintes forcément de format et de forme. Et nous, notre idée à chaque fois, c'est d'aller chercher justement des formes qui conviennent à ce qu'on fait, mais qui sont... pas forcément que axé sur la parole, un peu insolite et qui donne un peu une originalité aussi au propos et qui une place au son importante, je dirais.
Il y a quand même une narration que vous allez donner, ou alors vous vous laissez vraiment porter par les rencontres que vous allez faire.
Mais là, on est encore vraiment, pour en tout cas le travail qui sera plus long en documentaire, on est encore vraiment dans une phase de repérage. Donc c'est compliqué de te répondre maintenant, je crois.
Tu m'étonnes. Au terme de votre travail, on pourra l'écouter sur des grandes radios, genre Bartas ou France Culture ?
Bah oui, avec plaisir.
Question piège. Dites-moi, vous connaissez hein, la bouille qu'il y a juste à côté de vous
hein ? Oui, on l'a déjà vue.
Ils s'en rappellent pas, mais nous, oui.
si, je me rappelle, ça m'est revenu après.
Tout ça pour dire qu'on suivra votre projet avec beaucoup d'attention. Raphaël, histoire bref, t'es chaud ?
Oui, toujours.
Bah, qu'on retourne, il va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire bref.
Bonjour monsieur de Paris.
Bonjour monsieur Coudert.
Vous allez sans doute être frappé par ma confidence, mais sachez que dernièrement j'ai rêvé de vous.
Oh là là.
Enfin, je devrais dire que j'ai rêvé de nous.
Oh là là.
Attendez, c'est pas ce que vous croyez. Là, c'est vous qui rêvez. Non, nous avons vécu ensemble presque main dans la main une aventure que je vais maintenant vous conter. Tous deux, nous étions dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale et combattions côte à côte les Allemands. Vous étiez porte-drapeau et menez les assauts équipés de votre fanion que vous plantiez glorieusement sur les fossés et les trous d'obus que notre compagnie prenait. Je me rappelle notamment un épisode alors que notre officier sonnait l'attaque au point du jour. Il faisait très gris ce matin-là, mais quelques lueurs du jour parvenaient néanmoins à percer les nuages et donner à cette atmosphère si particulière des teintes rouge sang, le tout mêlé de cette nébuleuse grise qui n'appartient qu'au matin maussade.
Ah, j'y suis, hein.
Comme d'habitude, vous avez été le premier à sauter de la tranchée pour partir à l'assaut. Sous les feux nourris des Allemands qui se réveillèrent en sursaut en nous entendant. Là, j'ai une image de vous, hurlant, brandissant les couleurs de notre glorieuse patrie, votre silhouette svelte et en pleine action qui se découpait sur ce fond d'aquarelle. Mon Dieu que vous étiez beau. Nous vous suivions derrière comme nous pouvions. Certains camarades tombant sous les balles des ennemis, d'autres trébuchant dans les trous d'obus, ou se faisant agripper par ces vieux barbelés roulés en boule et à moitié repris par la rouille. Mais vous, complètement insensible à toutes les peurs, à la douleur, au bruit et au fracas des bombes qui éclataient autour de nous, vous traciez notre sillon au travers de ce no man's land jusqu'à sauter par-dessus les premières tranchées adverses. Vous voyez arriver, l'écume à la bouche et vociférant des injures venant de votre pays natal que vous seul compreniez dans le régiment, les Allemands battirent en retraite, abandonnant leurs tranchées et toutes leurs armes, pleurant leur famille et leur lointaine contrée. Ah, quelle gloire! Tous les copains hurlaient de joie lorsqu'ils vous virent planter l'oriflamme dans le talus qui jouxtait la colline à l'horizon. Une percée à ce moment-là va illuminer de ses rayons chauds nos belles couleurs bleu-blanc-rouge. En y repensant, les larmes m'en montent encore aux yeux. Vous rejoignant, ils vous hissèrent de leurs bras et criaient à gorge déployée leur joie immense de vous compter en nos rangs. Quant à moi, je ne pus vous rejoindre. Un vilain shrapnel qui avait sauté devant mes pieds m'avait emporté mes bras et mes jambes. Mais je ne ressentais pas la douleur, tant j'étais heureux de vous voir au firmament. C'était si beau, si mérité, qu'il était certain que dès le lendemain, vous recevriez une médaille et avec un peu de chance, des nouveaux galons d'officier. Je n'avais qu'un regret, qu'il n'y ait pas eu l'équivalent d'un Delacroix ou d'un David pour immortaliser ce moment splendide. Cet instant où jamais notre nation avait été si belle. Quel symbole ça aurait pu être ? Malheureusement, je ne pus jouir davantage de ce merveilleux moment de communion. De lourds voiles noirs tombèrent alors sur mes yeux et un tourbillon m'emporta visiter les tréfonds de mon âme. Ouf. Lorsque je me réveillais d'un long sommeil, je voyais votre visage souriant. Vous voir auprès de moi, après l'exploit réalisé la veille, m'emplit de joie. Si bien que je voulus vous serrer dans les bras. Mais la cruelle vérité se rappela alors à moi et j'ai dû me contenter de garder mes yeux fixés sur vous. Vous posâtes délicatement votre main sur ma joue et me réconfortâtes par des mots habiles qui agirent sur moi comme un baume miraculeux. Bon, après ça, mon rêve devint plus confus et je me suis réveillé trempé de sueur, mais toujours habité par ces images aussi belles que terribles. Vous imaginez un héros et moi un homme tronc m'a fait réfléchir longtemps et me tient éveillé une bonne partie de la nuit. Est-ce là une perception inconsciente que j'ai du couple que nous formons sur les antennes ? Non, je crois pas. Je crois que c'est plutôt aux images de guerre dont nous abreuve l'actualité que je dois ce songe merveilleux. Voilà comment notre réalité, même l'antenne, prend parfois corps dans nos esprits. Par ailleurs, de véritables héros de la Première Guerre mondiale ont aussi laissé leur témoignage et ont pu avoir quelque influence sur mon rêve et la perception que j'avais de vous. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Maurice Genevoix, grand écrivain qui a participé à la Première Guerre mondiale de façon active jusqu'au jour où il reçut 3 balles le 25 avril 1915. 2 balles dans le bras gauche lui font perdre définitivement l'usage de sa main et la troisième le touche au niveau de la poitrine. Il est alors soigné pendant 7 mois mais survit grâce à sa remarquable condition physique. De ce traumatisme, il écrit plusieurs récits de guerre, dont le fameux « Ceux de 14 ». Mais sa carrière d'écrivain est loin de se limiter à ses témoignages. En 1925, son roman « Rabiolo » reçoit le prix Goncourt. En 1946, il entre dans l'Académie française, dont il devint un secrétaire perpétuel entre 1958 et 1973. Bref, on ne présente plus Maurice Genevoix, d'autant plus que ce dernier a fait son entrée en 2020 au Panthéon. Autre exemple, mais moins connu en France pour la bonne et simple raison qu'il est allemand, Ernst Jünger. Lui découvrit la guerre dans les tranchées dès 1914 et participa à toutes les grandes batailles du conflit. Verdun, la Somme, les Flandres. Il fut blessé 14 fois pendant la guerre, dont quelques fois assez gravement, notamment la dernière, puisqu'il est touché au poumon en août 1918. Mais son courage et sa détermination lui permirent d'obtenir moult décorations, dont la plus prestigieuse possible, la Croix de l'Ordre pour le Mérite. Dès 1920, il écrit son récit de guerre « Orage d'acier ». Un livre dont André Gide a dit « Le livre d'Ernst Jünger sur la guerre de 14, Orage d'acier, est incontestablement le plus beau livre de guerre que j'ai lu. D'une bonne foi, d'une honnêteté, d'une véracité parfaite. » La suite de la vie d'Ernst Jünger est marquée par un parti pris politique qui le place entre les anarchistes et les fascistes. Mais il se désengage totalement de la vie politique avec l'accession d'Hitler au pouvoir. Il poursuit essentiellement sa vie d'écrivain jusqu'à la fin de sa vie à plus de 100 ans. Encore aujourd'hui, Ernst Jünger, francophile, fait partie des auteurs allemands les plus traduits dans notre pays. Tous deux ont pour point commun d'avoir certes participé au même conflit, mais en ont décrit une réalité crue et véridique qui a marqué tous ceux qui les ont lus. La boucherie qui fut la Première Guerre mondiale et ses 10 millions de morts est encore aujourd'hui dans l'esprit collectif une vision d'un enfer terrestre avec son cortège de brutalité et son horizon de paysage désolé. Les survivants, les héros, nous en remportent leurs témoignages, qui devraient être pris comme autant d'alertes sur les ravages que peuvent provoquer de tels conflits. Un peu comme celui qui frappe actuellement l'Ukraine, pour des enjeux qui paraissent pourtant si dérisoires. Qu'est-ce que l'Ukraine ? Une vaste plaine fertile ponctuée de quelques gisements de gaz et d'un littoral sur la mer Noire ? La belle affaire pour un homme comme Poutine qui, sans vouloir restituer la grandeur de l'URSS, dont il méprisait l'idéal, voudrait rétablir la grande Russie des tsars. C'est peut-être ça la fameuse hubris, la folie dans des grandeurs qui poussent les gens de pouvoir à commettre les plus grandes absurdités. Mais que la France se rassure, nous avons notre anti-Poutine, il s'appelle Poutou. Que ce nom pacifiste sonne bien à nos oreilles en ces temps troubles. Je ne sais pas s'il dépassera les 1% aux prochaines présidentielles, mais en tout cas, on peut être sûr qu'il saura claquer le museau à Poutine, cette élite issue du KGB qui tient sous sa coupe l'oligarchie qui monopolise toutes les richesses offertes par le capital en Russie. Enfin, assez rêvé, monsieur de Paris. Il n'y aura pas d'affrontement Poutou-Poutine. La guerre en Ukraine risque de durer encore. Jamais la Première Guerre mondiale ne deviendra un conte de fées, et je crains qu'à aucun moment de votre vie, vous ne serez un héros de guerre. Quant à moi, ça m'arrange bien puisque je vais pouvoir sortir d'ici sur mes deux jambes, en battant la mesure de mes mains. À la prochaine.
Bravo, alors je sais pas par quoi commencer. Est-ce que vous aimez le chocolat ?
C'est un petit péché mignon, oui.
Ouais, parce que pas de bras.
Ouais. Je l'ai fait à mon fils il n'y a pas longtemps. Hein.
C'est pour ce genre de chronique, Raphaël, que j'adore recevoir un message le dimanche 22h58. Vous faites ça sans aucun problème.
C'était 17h.
Là, 17h.
Démagogue.
Ouais, j'étais sur le cos à ce moment-là, tiens. Merci. Je suis où dans... Voilà, merci beaucoup, Raphaël. Merci, Laurine. Merci, Samy.
Merci, Ben.
Merci, Ben.
C'est moi qui vous trouve, le
Bonne route. Bah, c'est tout à fait ça. C'est ces espèces de rêves et la réminiscence de quelques. Enfin, bon, bref. Heureusement que vous n'avez pas fait la route hier hein, pour aller à Saint-Chély. C'était la folie. J'étais en bagnole sur le Causse et je sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène. C'était juste dingue. Et je vous assure que je serrais les fesses pour qu'il ne m'arrive rien parce que tomber en panne en pleine tempête de neige là-haut, ça aurait été juste fou. Mais rien n'arrivait. C'était vraiment magnifique et j'ai eu la chance de voir un spectacle qui était super cool. Je vous propose de se retrouver dans un instant. On part à la rencontre de la troupe du spectacle Tomber en amour. Mais on continue en musique avec Thomas Pitio et Batlick, le village de ton grand-père. À bientôt les amis. Prenez soin de vous.
Sur les monuments des villages, à la mémoire des morts sans âge, encore partis pour la dernière, c'est toujours la dernière. Je lis les noms, j'entends les airs d'accordéon. Ces jeunes garçons qui valsaient dans les fêtes populaires. Certains quittaient l'accordéon, d'autres laissaient les percussions. Chacun son uniforme et chacun sa couleur. L'étrange fierté se mêle à la douleur d'antan. Sur l'autre rive, j'écoute me parler un ancien combattant. Il n'y a plus de lumière dans le village de ton grand-père, mais brille encore une lueur dans le regard du tirailleur. Oui, c'est bien de la nostalgie quand il parle de Paris, ville lumière dans sa grisaille. Il raconte au tout petit, c'est lui qui pleure et puis tant pis, en serrant très fort ses médailles. De quand date-t-elle cette carabine? Il faudrait changer la culasse. Existe-t-il encore ces vieilles pièces en France? Malgré la vie qui ratatine, il s'en va tout seul à la chasse. La chasse aux souvenirs tranquille, tranquille dans son errance. Il n'y a plus de lumière dans le village de ton grand-père, mais brille encore une lueur dans le regard du tirailleur. Mais combien de Français savent ce qui s'est passé exactement à Tiaroy, quand militaires ils ont arrosé l'arroseur, refusé sa solde aux soldats, tiré sur le tirailleur et réécrit l'histoire. Encore une fois, vieux papy, moi aussi, se demande aussi pourquoi ils ont fait la guerre. Tous les grands-pères bantous se demandent après tout pourquoi avoir été militaire. Toi qui finis là-bas pour ton dernier combat, tu ne l'attends plus guère. La pension du soldat, ta victoire est ailleurs. Et du haut de ton âge, tu parles encore de paix, grand-père, aux enfants du village. Thank you. plus de lumière dans le village de ton grand-père, mais brille encore une lueur dans le regard du tirailleur.
Thomas Pithiot et Batlick, le village de ton grand-père. Tomber en amour, c'était à Meyruès un dimanche à 15h. Il y a dans cette histoire une grand-mère et son petit-fils. Il a 15 ans et ressent ce que peut ressentir un ado. De la tristesse, de la colère, de la révolte. Elle a les cheveux blancs, lui tombe amoureux pour la première fois, elle peut-être pour la dernière. Les deux personnages vont se raconter leur coup de foudre respectif. Rencontre avec la troupe de Tomber en amour.
Laurence Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène, auteur, autrice, comment ?
Auteur.
Auteur et scénographe de Tomber en amour qu'on vient voir ici à Meyruès. Le spectacle vient de se finir. Comment ça s'est passé pour vous ?
Pour moi, ça se passe toujours bien. En fait, ce qui compte, c'est la rencontre. Donc cette rencontre entre des spectateurs qui ont fait le choix de venir et ce projet, cette proposition qui est voilà, à mi-chemin de deux générations. Donc oui.
Voilà, une grand-mère, un adolescent, surtout l'adolescent. D'où est partie l'idée de cette pièce ?
Cette pièce elle s'inscrit dans un cycle de quatre pièces qui questionne l'enfance comme un endroit possible dans lequel on va vivre, évoluer, dans lequel on va grandir. Peut-être qu'un jour on va le quitter, mais c'est toujours là. Et donc cette quatrième pièce clôt ce territoire de l'enfance en se disant que peut-être quand on tombe amoureux, c'est peut-être la fin de l'enfance, on ne sait pas.
Pourtant, c'est toujours le début de quelque chose puisqu'on tombe en amour à l'adolescence, quand on a 30, 40, 50 ans. Et même là, c'est le cas aussi pour la grand-mère. C'est toujours le début de quelque chose aussi.
Ah oui, c'est indéniable. J'avais envie que cette grand-mère qui l'accompagne puisse lui dire « mais laisse-toi tomber ». Elle a cette grande qualité de pouvoir dire « ça m'est déjà arrivé, je n'ai plus peur. De toute manière, je n'ai même pas le temps d'avoir peur. Mmh. Donc prends, laisse-toi tomber avec ce qui est en train d'arriver. »
Est-ce que le texte donc de l'adolescent est écrit au mot près ? On le sent révolté, mais on le sent aussi révolté, oui, mais aussi contre les grands, contre les adultes, contre ce monde qui n'a pas envie d'y être. Est-ce que c'est écrit au mot près et le comédien le dit, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui
sont rajoutées ? Non, non. En fait, cette partition, il faut pour lui qu'il la tienne, sinon il est perdu, parce que ce sont des adresses différentes, des regards différents, des postures différentes, et donc ce texte, c'est du mot à mot, et s'il accroche sur un mot, ça le met, alors il y arrive, hein, mais non, ça vraiment c'est une...
Au niveau de la mise en scène, vous avez fait des choix aussi, c'est-à-dire vous n'avez pas un public devant, ici à Meyruès, donc on s'imagine les deux publics qui sont face à face, l'adolescent et la grand-mère qui sont au milieu, pourquoi vous avez fait ce choix ?
L'idée, c'était de symboliser l'adolescence comme un couloir, et de part et d'autre, de ce couloir, il y a à la fois les témoins de cette transformation, les spectateurs, les joueurs de basket, ceux qui en rigolent, ceux qui observent, ceux qui sont touchés, ceux qui sont en dehors, un peu comme si c'était un rat de laboratoire. Et j'avais vraiment envie de cette configuration, de part et d'autre, du monde. Il n'est jamais tranquille. Un peu comme vous le dites, les mots qui sont sans cesse, qui lui sont donnés, il est assommé par ces mots, et j'avais envie de cette chose-là.
Est-ce qu'à chaque fois, les comédiens vous surprennent ?
Oui. Là, je pense qu'ils ont joué la pièce plus de 80 fois. Oui. Oui, parce que Thomas, il joue selon les spectateurs qui sont là. Et oui, parce que Françoise, de son grand âge, se permet des petites fantaisies. Et parfois, ils vont un peu plus en force, ils sont plus joueurs, et des fois, ils sont plus tendres. Donc oui, j'aime beaucoup les voir évoluer.
L'instant promo, une petite phrase pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle. Nous, on a eu la chance de le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle et qui doivent venir voir ce spectacle.
Bah, tomber en amour, c'est la chute, mais on s'en relève. Il n'y a rien de plus beau que de laisser son cœur battre. Je crois.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour à tous les deux, merci de prendre votre temps. On sort de la pièce Tomber en amour. Je vais vous laisser vous présenter pour les auditeurs.
Moi, je suis Thomas Coupet. et Françoise Balgut.
Danseuse comédien et danseur comédien tous les deux.
Voilà. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis moins comédienne que lui, mais...
Moi, je suis moins danseur qu'elle. Voilà.
Quelle performance. On va commencer par vous. Vous arrivez sur la scène, donc vous jouez le rôle d'un adolescent révolté, tout petit flamme, qui va tomber en amour, on va en parler, mais surtout, vous arrivez sur la scène en feu directement. Comment ça se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe juste avant de monter sur scène? Est-ce que vous dites, ok, je suis bon pour le marathon, je suis parti, je suis échauffé, je suis chaud? Comment ça se passe?
Oui, en effet, il y a un petit peu un aspect de marathon, puisque il y a tout ce début du spectacle qui est un peu dans une énergie assez haute, mais je me dis pas ça quand même en rentrant. Au contraire, j'essaye d'oublier et d'être plutôt vierge en arrivant et de pas savoir ce qui va se passer pour essayer de découvrir. Donc je sais pas de me raconter que je vais faire un marathon, à l'inverse.
Vous jouez la grand-mère, vous arrivez tout de suite sur scène, donc on vous voit, mais vous, très posé, très calme, vous allez observer cet adolescent qui est votre petit-fils. Est-ce qu'il vous surprend à chaque fois sur scène? Est-ce que c'est la même chose? Et est-ce que vous allez apporter à chaque fois la même attention, ou suivant son énergie, en fait, vous allez faire évoluer votre regard?
Oui, ça change, ça c'est super, parce que je le connais bien, et donc j'aime beaucoup être à l'écoute de ce qu'il va faire, et s'il me surprend, ça m'aide aussi, parce que du coup, mon comportement change, ou mon écoute est plus profonde, ou plus gaie, ou plus superficielle, ou plus... Pas superficielle, non, parce que je suis vraiment à l'écoute tout le temps de lui, mais en même temps, où je suis plus... un côté plus triste, plus dur, quand il s'énerve, ou tout ça. Donc, et comme il change, ça dépend aussi du public, parce que quand on a un public que de collégiens, c'est pas du tout son même comportement, il a une autre énergie, et ça, j'adore, et quand c'est un tout public, ça change aussi beaucoup. Donc, moi, c'est un plus pour moi, parce que ça m'oblige d'être à l'écoute, mais vraiment sincèrement à l'écoute. Donc voilà, c'est un plaisir.
Silence ! Il dit ça. Silence ! Fermez les portes ! Ma mère me dit ta chambre. T'as vu ta chambre ? Tu peux la ranger, s'il te plaît ? Tu veux faire ça, s'il te plaît ? Qui va la ranger ? Et mettre la table pour une fois, et où je te parle ? Non, tu sors pas ce soir, c'est tout, c'est comme ça, je l'ai décidé. Je dois te rappeler l'âge que tu as, que t'es encore sous notre responsabilité.
La pièce avait été écrite pour vous. Est-ce que vous auriez eu la force de la refuser, ou la pièce était trop belle et vous dites non, mais si je passe à côté de ça, c'est fini?
C'est un peu différent pour nous deux, parce que moi j'ai passé une audition pour donc j'avais déjà toutes les données quand j'ai passé l'audition, donc c'était si j'y allais, c'est que j'y allais.
Tandis que moi je sortais d'une autre pièce qui était en un éclat, et ça fermait un peu la boucle, et longtemps Laurence m'a proposé de jouer ce rôle, enfin d'être la grand-mère. J'ai attendu longtemps parce que je trouvais que c'était pas forcément utile. Je trouve que son personnage d'ado, il est très fort et il peut se suffire à lui-même. Et puis un jour, j'ai dit oui parce que j'adore le travail de Laurence et que c'est d'une richesse. À chaque fois, on apprend. Et moi, apprendre encore maintenant, c'est quand même super. J'ai beaucoup de chance. Hein. Je suis encore en train d'apprendre. Donc oui, j'ai dit oui vite. Pas vite, mais j'ai dit oui.
Est-ce que votre alchimie, votre jeu, tous les deux, le rapport grand-mère-petit-fils, qui est quand même un rapport extraordinaire dans la vie, je pense, de tout le monde, à part ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir des grands-parents. Est-ce que vous deux, l'alchimie s'est faite tout de suite, ou il a fallu ce petit temps d'adaptation et ce travail?
Non, ça s'est fait tout de suite.
On a eu tout de suite un vraiment très bon contact. Et moi qui sortais d'un autre garçon qui avait le même âge que lui et qui était un hip-hopper et tout, et c'était pas du tout le même garçon, pas du tout les mêmes conditions, et on s'est tout de suite bien entendu, et ça c'est un bon plus, hein, quand même, ça a marché tout de suite.
Un petit mot sur votre partenaire.
Non, c'est une super partenaire. C'est assez incroyable d'avoir quelqu'un qui donne cette écoute-là, en fait. Et c'est assez rare, en fait, aussi d'avoir quelqu'un qui va donner le temps de cette écoute. Parce que j'ai quand même ce début là où je suis un peu tout seul. Enfin, je suis pas tout seul, mais je suis au plateau et t'es sur le bord du plateau. Et je sais que t'es là, et en fait ça change énormément de choses, et parce qu'il y a une écoute très très forte de la part de Françoise.
Eh ben moi je trouve que c'est un comédien extraordinaire. Je peux dire que chaque fois je me régale. Je trouve qu'il a une énergie spontanée, naturelle. naturelle, enfin, et volontaire en même temps, mais pleine, riche, je me régale à chaque fois. Et à partir du moment où on joue ensemble, quand on commence à jouer ensemble, c'est tout bien, quoi. Et il a préparé le terrain et il met en condition, parce que je prends beaucoup de son énergie, beaucoup, beaucoup. Je peux faire à la fin parce que il m'a donné toute cette énergie. Hein.
Ouais, elle a aussi une énergie hyper solaire et qu'elle permet, elle donne. C'est vrai que elle donne une couleur en fait énormément aussi à ce personnage d'adolescent. Je pense qu'il pourrait pas être comme ça s'il n'y avait pas cette grand-mère et cette actrice avec cette énergie-là.
Les profs disent marchez en rang. Marchez en rang, ne courez pas dans les couloirs, les sacs là. Rangez vos sacs à vos pieds. Comment on peut vous le dire ? Chut ! Taisez-vous ! Sortez vos cahiers. Tenez-vous droit là, redressez-vous. Mais vous avez vu comme vous êtes avachi ? On n'est pas dans votre salle de bain, on se tient droit, merci. Et enlevez vos vestes.
Une petite phrase d'accroche, venez voir tomber en amour, pourquoi ?
Pour vivre... Pour partager en tout cas quelque chose. Se demander ce que c'est que cette adolescence.
Soyons sérieux. Il s'agit simplement de mesures coercitives sur la consommation débridée, sur nos lectures et modes de pensée, pas sur nous-mêmes, hein, ni même sur nos opinions esthétiques, érotiques, ésotériques, éthiques, physiques, métaphysiques, politiques. On pourrait rester libre, non ? Il s'agit simplement de consommer un peu moins, bordel.
Pour partager, parce que la disposition le permet, et comme on a un contact direct avec le public, ça c'est assez rare quand même, parce que là on est, lui il leur parle, mais moi je sais qu'ils sont là aussi, et qu'il y a toutes sortes de... Ça c'est la façon dont c'est présenté, c'est une très belle pièce, il faut venir la voir, c'est tout sur la dos, c'est tout... Et tous les bons côtés aussi, c'est une belle démarche, et c'est le résultat d'un très beau travail en amont. Ça, il faut... Et si cette pièce, elle est riche, c'est parce qu'il y a eu tout ce dont a parlé Laurence. Ce travail en amont, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
Excellent spectacle, vraiment tombé en amour, de la compagnie AK Entrepôt. Ils ont encore quelques dates ici en Lozère. Je mets les dates dans un instant sur notre site. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Merci, Corto.
Avec plaisir.
J'ai vu, t'étais en train de vérifier l'enregistrement, c'était très drôle. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci d'écouter Radio Bartas. On finit cette matinale avec distinctement Pitio et Matlik. Passez une excellente journée. À mercredi. Ciao.
Quand t'auras fait renoncer le dissident dans son cortège, pour que tes culs serrés puissent voir Courchevel sous la neige. Quand t'auras fait poursuivre basané, pauvre et coléreux, pour que oui-oui puisse vivre tranquille au pays des vertueux. Quand la consigne à tes hommes sera de capturer des gamins, et son uniforme, l'opinion criera que c'est pour son bien. C'est en fermant les yeux qu'on percevra distinctement, derrière les cris des bœufs, le bruit des bottes sur le temps. Quand t'auras réinventé le sens des mots et des objets, et puis délimité le bien du mal, le faux du vrai. Quand t'auras mis en vente du besoin jusqu'à l'émotion, pour que oui-oui se sente libre au pays des pulsions. Quand la consigne à tes hommes sera de captiver des gamins, et son uniforme, la télé criera que c'est pour leur bien. C'est en coupant le son qu'on entendra distinctement, derrière les cris des moutons, le bruit des bottes sur le temps. danser sur la tribune pour prononcer ton sempiternel discours cousu de peine et de respect. Quand t'auras mélangé maintes et maintes fois, plus jamais ça, avec la complicité d'un génocide au Rwanda. Ouais, la consigne à tes hommes était de laisser tuer les gamins. Et du fond de leurs uniformes, ils n'ont eu qu'à serrer les poings. C'est en baissant les yeux qu'ils ont perçu distinctement, derrière la voix des nations, le bruit des bottes dans le sang.